Manval, bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Quand la direction d'un McDonald's tente d'acheter un témoignage pour faire licencier l'un de ses syndicalistes. Ça se passe à Marseille, où le conflit fait rage entre le propriétaire de plusieurs restaurants et ses salariés. Nous y serons. Conseil des ministres de rentrée ce matin pour le gouvernement. Parmi les dossiers sur la table, un nouveau geste de l'exécutif pour nos droits à la formation professionnelle. Dans le journal également, les centaines de victimes potentielles d'un chirurgien pédophile en Charente-Maritime. Et puis les randonneurs connaissent leur utilité en cas de mauvais temps, mais il faut arrêter de faire des cairns à tout va. Ces empilements de pierres censés marquer les chemins sont désormais détournés par les Instagrammeurs.
Europe 1.
Cela fait déjà plusieurs mois que le climat est très tendu à Marseille entre le propriétaire franchisé de plusieurs restaurants McDonald's et une partie de ses salariés. Le patron est accusé de vouloir se débarrasser à tout prix des leaders syndicaux de ces fast-foods. Deux d'entre eux ont d'ailleurs vu leur licenciement annulé par l'inspection du travail le mois dernier. Et bien aujourd'hui, on apprend que ce propriétaire aurait tenté d'acheter le témoignage de l'un de ses employés pour parvenir à ses fins, Stéphane Frangy.
25 000 euros pour acheter un faux témoignage. Maître Ralph Blindauer, avocat des employés d'un McDonald's des quartiers nord, confirme l'information.
J'ai écouté une partie de ces enregistrements. On entend clairement les pressions qui sont exercées. Ça ne laisse place à aucun doute, hein, puisque le processus, il est le suivant. On propose à l'intéressé une transaction pour qu'il quitte l'entreprise. Et puis, hors bout de course, il manque un morceau financier sur la transaction et on lui dit, bah oui, tu n'auras le reste que si tu rédiges cette attestation. Mais ça, c'est très clair, hein. C'est une variante de la corruption, la subordination de témoins.
Ce salarié finira par faire machine arrière et revenir dans un second temps sur son témoignage acheté. Mais ce n'est pas la première fois que ce genre d'approche est tenté, affirme le porte-parole de l'intersyndicale marseillaise des McDonald's, Abderrazak Jeffel.
On a la preuve, on a des documents, on a des enregistrements. C'est courant, ça fait partie du fonctionnement de la machine de chez McDo. Pour nous, ce n'est pas étonnant parce qu'on le subit tout le temps. McDo France est complètement au courant. On se demande pourquoi McDo France ferme les yeux alors que des enregistrements leur ont envoyé.
Contacté dans la journée, McDonald's France, comme son franchisé, non pour l'heure, pas donné suite. Marseille, Stéphane Frangé, Europe 1.
À la une également ce matin, le gouvernement qui fait sa rentrée, conseil des ministres à 10h après 4 semaines de vacances. Sur la table des dossiers essentiellement techniques et une première reprise de contact avec le président de la République. À l'ordre du jour aussi, je vous le disais, ce geste de l'exécutif sur nos droits à la formation. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, devrait proposer une amélioration de sa loi votée l'année dernière, Carole Ferry.
Grâce à la loi votée l'an dernier, si vous êtes encore en activité, vous avez forcément un compte personnel de formation dédié. Il est très simple à utiliser, on ne parle plus d'heures de formation, mais d'argent disponible pour la financer, plus besoin non plus de passer par son employeur. Sauf qu'en l'état, la loi prévoit qu'en 2021, nous perdions toutes les heures de formation acquises via l'ancien droit individuel à la formation, le fameux DIF. Et c'est ce point précis que la ministre souhaite assouplir. Ces heures stockées dans le DIF ne seront finalement pas perdues. Elles seront transformées en euros, puisque maintenant c'est la règle, et surtout, elles pourront être utilisées sans limite de temps. Mais attention, ce ne sera pas automatique. Pour ne pas perdre votre capital formation, il faut obligatoirement ouvrir votre compte sur le site moncompteformation.gouv.fr, et ce, avant le 31 décembre 2020. J'ai testé, ça prend moins de 5 minutes. Le plus long, finalement, c'est de retrouver le nombre d'heures acquises dans le DIF, information qu'en général, votre DRH peut vous donner, et ça peut valoir le coup si vous n'aviez jamais puisé dans votre DIF, vous pouvez récupérer jusqu'à 1800 euros de droit à une formation.
Carole Ferry.
Europe 1, 6h04.
L'actualité judiciaire à présent est cette question. Un ancien chirurgien s'est-il livré à des dizaines d'agressions pédophiles en Charente-Maritime?
Les gendarmes de Poitiers ont retrouvé chez cet homme, poursuivi aujourd'hui pour des accusations de viol sur 4 mineurs, des carnets dans lesquels ce médecin a compilé plus de 200 noms et listé toute une série d'actes qui semblent relever de ses pulsions. L'homme de 68 ans est déjà en détention provisoire dans l'attente de son procès aux assises, Salomé Legrand. Mais le nombre de ses victimes pourrait donc être beaucoup, beaucoup plus important.
C'est une toute jeune voisine du chirurgien en Charente qui a alerté la première il y a un peu plus de 2 ans. Elle raconte à son père une exhibition sexuelle. Les examens étayent même des soupçons de viol. En perquisition, les enquêteurs découvrent de très nombreux écrits du praticien que l'avocate de la fillette, maître Francesca Satta, a lu en partie.
Décrit des scènes à connotation sexuelle.
et fait des récits qui apparaissent un peu comme des histoires, mais dans lesquels il va écrire ses impressions, ses ressentis, et surtout il va exposer, je dirais, toute la perversité qui est la sienne vis-à-vis de petites, en les considérant comme des proies.
L'ancien médecin de 68 ans est en détention provisoire dans ce premier volet de l'affaire qui concerne 4 mineurs, mais les gendarmes remontent maintenant la trace des quelques 200 noms apparaissant dans ses carnets, dont rien ne dit qu'ils ne correspondent à des victimes, martèle son avocat, maître Thibaut Kurzawa.
Il avait effectivement un comportement, on va dire, déviant sexuellement dans sa manière d'appréhender les choses. Il avait effectivement une attirance pour les personnes mineures, mais que ces faits soient décrits au conditionnel, au passé, au futur, au présent, il n'y a rien qui démontre avec certitude qu'un passage à l'acte ait effectivement eu lieu. Pour lui, ce sont des qui relève exclusivement du fantasme. Il n'y a rien qui prouve qu'il les a commis.
Et c'est toute la difficulté de cette enquête pour des gendarmes qui doivent contacter de nombreuses personnes qui n'ont elle-même pas forcément de souvenirs.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Ils ont débarqué aux environs de minuit dans le port de Lampedusa. Les 80 migrants encore à bord du navire Open Arms ont retrouvé la terre ferme après jusqu'à 19 jours en mer pour certains. Décision imposée par la justice italienne devant l'urgence sanitaire à bord malgré les refus répétés du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Un autre navire reste encore en mer, l'Ocean Viking, avec 356 migrants secourus. La France promet déjà d'en accueillir une partie. Elles ont fait l'expérience des centres de rétention justement de la police française alors qu'elles se trouvaient simplement en transit à l'aéroport de Roissy. Trois touristes sud-américaines se retrouvent depuis la fin du mois de juillet au milieu d'une histoire complètement ubuesque, faute, Jeanne Bergaoui, d'avoir bien accompli toutes leurs formalités administratives.
Les trois femmes ne se connaissent pas. Vilma, vénézuélienne, veut se rendre à Genève pour voir son fils hospitalisé. Mais la police aux frontières lui reproche de ne pas avoir d'attestation d'hébergement en Suisse, un document obligatoire pour les étrangers entrant dans l'espace Schengen. Liliana et Jennifer, elles, doivent prendre des correspondances pour Madrid. Mais elles n'ont pas assez d'argent sur elles et pas de réservation d'hôtel valide. La police les place donc en garde à vue, puis en rétention administrative, explique Jennifer, jeune colombienne de 23 ans.
Durant toute la rétention, ils nous ont traités comme des criminels. Ça n'est pas correct, parce que oui, on a fait une erreur, mais à aucun moment on a commis un délit pour qu'ils nous traitent de cette manière. J'ai vu plusieurs personnes à qui cette mésaventure est arrivée, et malheureusement, je ne suis ni la première ni la dernière à subir ça.
Il y a 10 jours, le juge des libertés et de la détention à Rouen assure que leur rétention est irrégulière. Les trois femmes sont donc libérées. Elles ont aujourd'hui retrouvé leur passeport, mais font toujours l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français. Elles attendent maintenant la levée de cette procédure pour quitter la France en toute légalité.
Récit signé Jeanne Bergaoui.
À Biarritz, 4 des 5 personnes arrêtées hier, soupçonnées d'avoir voulu s'en prendre aux forces de l'ordre, ont été relâchées.
Seul un homme reste en garde à vue, accusé d'avoir menacé sur les réseaux sociaux d'aller mettre le feu à l'un des hôtels dans lesquels sont hébergés les quelques 13 000 membres des forces de l'ordre qui doivent sécuriser le G7. Les hôtels d'ailleurs ne suffisent pas sur la côte basque. Certaines unités se retrouvent au camping, plusieurs villages de vacances ont été réquisitionnés. Jean-Jacques Herry.
Dès l'arrivée sur le parking, on comprend tout de suite la situation. Ici, pas de break familial, pas de voiture de touriste avec galerie sur le toit, uniquement des fourgons de CRS impeccablement alignés sous les arbres.
Nous, le personnel, ça nous fait bizarre aussi parce qu'on a les voitures calées entre des camions de CRS.
Nathalie Hans est la directrice adjointe du domaine de Françon.
C'est très drôle. Ce qui change, c'est des petites phrases. Moi, d'habitude, ici à l'accueil ou dans le domaine, on entend « Ah, attends-moi, j'ai oublié mes lunettes de soleil !»« Oh, attends-moi, j'ai oublié mon maillot de bain !» Là, hier matin, j'ai entendu « Oh, attends-moi, j'ai oublié mon gilet pare-balles !» Donc forcément, c'est une autre ambiance.
115 CRS sont logés ici cette semaine à 2 ou 3 par appartement en fonction des grades. Lorsqu'ils ne travaillent pas, ils font comme les vacanciers, ils jouent à la belote sur la terrasse. Mais vous ne les entendrez pas abattre leurs cartes, interdiction pour eux de prendre la parole. Il faut donc s'en remettre à Nathalie Cristobal, la chef de cuisine, pour en savoir un peu plus.
Ils sont plutôt souriants, ils n'ont pas de réclamation particulière.
Si je vous demande le menu des CRS aujourd'hui.
Un plat régional, c'est l'achois au piment d'Espelette. Donc c'est du veau haché qu'on servira avec des pommes vapeur.
Ils sont bien lotis quand même.
Ah bah bien sûr, on les nourrit comme tous nos autres clients.
Après tout, l'État a payé le plein tarif pour les loger. Et franchement, nous, on n'est pas perdants, sourit la directrice adjointe. Biarritz, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Et puis si vous êtes plutôt randonnée que bord de mer, vous connaissez ce qu'on appelle les cairns. Ils se retrouvent au centre d'une nouvelle mode un peu problématique.
Oui, ces empilements de pierres sont censés aider les randonneurs à rester sur le bon chemin en cas de mauvais temps ou de sentiers difficiles à distinguer. Le souci, c'est que c'est souvent joli, ces petites pyramides artisanales en pleine nature, et que les fans du réseau social Instagram en construisent un peu partout, à tort et à travers, pour les prendre en photo. Sauf que construire ces cairns partout, ce n'est pas innocent pour l'environnement, explique Patrice Bazin, directeur de la gestion patrimoniale au Conservatoire du Littoral.
Le principal problème qu'il pourrait y avoir, c'est sur les cordons de galets qui sont en bord de mer et qui protègent en fait l'arrière-pays lorsqu'il y a les tempêtes en hiver. Et ces galets, il faut qu'ils restent disposés comme la nature les a disposés, de façon à ce qu'ils puissent jouer leur rôle. Il y a des motifs également de vigilance vis-à-vis de la faune et de la flore, parce qu'il faut savoir que des petits échassiers qui s'appellent les gravelots nichent à même le sol entre les cailloux. Et donc, on peut par mégarde déplacer les œufs ou endommager le nid. On risque aussi de leur porter préjudice. Il faut veiller également à ne pas déplacer les plantes qui poussent là, qui sont des plantes très adaptées à ces milieux et donc, en général, assez rares.
Voilà, mollo sur les cairns. Patrick Bazin, directeur de la gestion patrimoniale au Conservatoire du Littoral, il répondait pour Europe 1 à Pierre Herbulot.
Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour faire des belles photos à mettre sur les réseaux sociaux ? C'était le journal de Théo Manval. À tout à l'heure, Théo, pour le journal
Sébastien
de 7h.
Krebs sur